à tout prix la rubrique des lauréats des académies et de l'Institut.
Bonjour, je m'appelle Guillaume Cano, je suis maître de conférence universitaire praticien hospitalier, donc médecin à l'hôpital Necker Enfants Malades et l'heureux récipiendaire du prix Jean-Pierre Lecoq décerné par l'Académie des sciences pour nos travaux récents sur les syndromes d'hypercroissance dysharmonieuse liés à une mutation d'un gène particulier. Donc je suis, brièvement, je suis médecin de formation, je suis néphrologue exactement, donc je m'occupe des maladies des reins, et plus particulièrement de certaines maladies génétiques rares qui touchent donc les reins. En parallèle, donc, j'ai un cursus de scientifique, puisque j'ai réalisé une thèse de science à l'hôpital Necker au sein de l'INSERM U151, qui était une équipe qui était dirigée par Fabiola Terzi. Et je me suis spécialisé pendant mes études scientifiques, on va dire, sur une voie de signalisation très particulière qu'on retrouve dans toutes les cellules, qui est une voie qui s'appelle PIK3CA-AKT-mTOR, en fait, un nom un peu barbare. Mais cette voie de signalisation, elle est indispensable dans toutes les cellules parce qu'elle contrôle la taille et la croissance et la multiplication des cellules. Donc cette voie, elle régule en fait toute la journée le bon développement des cellules avec des cellules qui peuvent grossir ou diminuer de taille. Et cette voie de signalisation est majeure puisqu'elle régule parfaitement ces problèmes de croissance. Alors on s'intéresse beaucoup à cette voie de signalisation puisque dans certaines maladies génétiques, elle est anormalement régulée, c'est-à-dire que chez certaines personnes, il y a une mutation des gènes qui code pour des protéines de cette voie, et cette voie travaille trop, donc les cellules en fait ont envie de grossir de manière inconsidérée, non contrôlable, aboutissant à ce que l'on appelle des syndromes d'hypercroissance dysharmonieuse, c'est-à-dire que ce sont des jeunes enfants qui naissent avec des déformations des extrémités ou d'autres atteintes, hein, des atteintes du thorax, de l'abdomen, parfois d'organes ou du cerveau. Ces mutations sont pas hérité du papa et de la maman, c'est-à-dire que les parents sont sains, ils ne sont pas porteurs, et ce sont des mutations qui apparaissent au moment où on est un petit embryon, et donc cette mutation qui va apparaître spontanément va être transmise au cours de l'embryologie à toutes les cellules filles descendantes, et donc vous avez un enfant qui naît avec ce que l'on appelle une forme mosaïque, avec du coup des formations qui touchent certains territoires, mais pas tous les territoires. Donc c'est une maladie complexe, puisque ce sont des enfants qui ont des présentations cliniques très différentes d'une jeune personne atteinte à une autre. Et souvent, le diagnostic est du coup compliqué à faire, puisqu'il faut, pour arriver à en mettre en évidence l'anomalie génétique, faire des biopsies de ces tissus malades. On ne peut pas faire une prise de sang pour trouver la maladie génétique, il faut faire vraiment une biopsie du tissu atteint et avoir des techniques de génétique très particulières, très puissantes, pour pouvoir identifier le gène incriminé. Donc nous travaillons sur différents aspects au laboratoire, et dans mon équipe de recherche, nous avons développé un modèle expérimental animal, donc une souris qui a été génétiquement modifiée pour essayer d'avoir une présentation clinique qui ressemble à celle des patients. Donc on a réussi, avec des techniques de manipulation génétique, à créer ces souris et à faire en sorte qu'elles développent exactement les anomalies des patients, des déformations des extrémités, des excroissances qui sont des tuméfactions bénignes mais qui contiennent des vaisseaux annexes, de la graisse, du muscle, de l'os, etc. Et une fois que nous avons réussi à créer ces souris, eh bien nous avons commencé à comprendre un peu mieux comment cette maladie se développait au fil du temps, comment elle progressait, quelles étaient les anomalies qu'elles entraînaient au sein de la cellule, pourquoi ces cellules devenaient trop grosses et qu'il n'y avait plus aucun contrôle possible sur leur prolifération excessive et leur augmentation de taille excessive. Et nous avons identifié en fait un traitement qui permettait de bloquer justement la prolifération excessive de ces cellules et de réguler un peu mieux la taille des cellules. Et ce traitement a été testé chez la souris avec un résultat qui était spectaculaire, puisqu'en fait toutes ces malformations que l'on observait chez les souris régressent en quelques semaines, en 2-3 semaines de traitement, qui est un traitement qu'on donne en traitement oral, on le donne sous forme de liquide chez la souris à boire, et on a vu une disparition de l'ensemble de ces malformations. Alors ce traitement, en fait, c'est un traitement qui a été identifié par les industriels de la pharmacie, créé par les industriels de la pharmacie, puisque ces fameuses voies de signalisation qui nous intéressent dans les centres d'hypercroissance sont très fréquemment malades en cancérologie. Et donc, on a dérivé un médicament qui était destiné à de la cancérologie, notamment la cancérologie du sein, pour ensuite essayer de le donner à ces souris qui avaient cette maladie génétique qu'on avait recréée chez elles. Et donc ce médicament qui n'existe pas sur le marché puisqu'il est en cours de développement, il devrait arriver sur le marché dans le cancer du sein courant 2019 mais pas avant, donc on est allé relativement vite pour l'identifier, eh bien il était tellement spectaculaire que nous sommes allés voir les autorités de santé et nous avons eu les autorisations d'agence de régulation du médicament qui s'appelle l'ANSM pour utiliser ce traitement chez un premier patient qui avait donc cette maladie génétique avec des déformations excessives, mais des déformations qui étaient extrêmement sévères et qui engageaient son pronostic vital à quelques mois, c'est-à-dire que sa vie était en danger et que malheureusement nous avions épuisé toutes les ressources thérapeutiques classiques, c'est-à-dire la chirurgie possible, les gestes de radiologie endovasculaire pour essayer de boucher, faire régresser ces différentes malformations. D'autres traitements également avaient été essayés sans succès. Et malheureusement, ces différentes options thérapeutiques avaient été des échecs. Donc nous avons eu l'autorisation d'utiliser ce médicament, qui, encore une fois, qui est en cours de développement, qui n'existe pas. Donc nous avons débuté en janvier 2016. Un traitement PEROS en utilisant la dose la plus faible possible que le laboratoire pharmaceutique pouvait nous fournir. Et très vite, nous avons vu un effet spectaculaire avec une diminution des différentes malformations, une amélioration quantitative de vie, puisque ce jeune patient de 27 ans à l'époque est toujours en vie, donc 3 ans plus tard. Une amélioration qualitative, puisqu'il a permis, ce médicament a permis à ce jeune homme d'avoir une activité professionnelle, de recommencer à avoir une activité physique, de pouvoir voyager, puisque cet été il est parti en vacances en Inde, tout un tas de choses qui n'étaient pas possibles il y a encore quelques mois. Et puis, encore une fois, une amélioration esthétique, puisque nous avons vu une fonte d'un grand nombre de ces malformations. Et il avait comme particularité d'avoir une atteinte cardiaque très sévère. Et nous avons vu une transformation de cette atteinte cardiaque, une amélioration tout bonnement spectaculaire, puisque l'activité cardiaque est rentrée dans la norme en quelques semaines de traitement. Donc ce traitement a eu un effet que nous avons considéré quasiment comme miraculeux chez lui, puisqu'on ne s'attendait pas à avoir un tel effet spectaculaire. Et donc nous avons poursuivi et nous avons eu l'autorisation de traiter une petite fille de 9 ans, donc en septembre 2016. Nous sommes retournés voir à l'agence de régulation du médicament, puisque nous avions le cas d'une petite fille qui, âgée de 9 ans, avait elle aussi la même maladie génétique, mais avec une malformation vasculaire à l'intérieur du ventre, de l'abdomen, qui était une malformation qui progressait au fil du temps et qui devenait extrêmement invalidante et également était non accessible à un traitement chirurgical ou un traitement classique. Et donc engager chez elle aussi son pronostic vital. Donc nous avons discuté de manière collégiale, comme nous le faisons à l'hôpital, avec l'ensemble des médecins impliqués dans la prise en charge de ces spécialités. Nous avons décidé de lui proposer le traitement. Donc encore une fois, c'était la deuxième patient traité dans le monde avec ce médicament dans cette indication-là, et le premier enfant surtout. Donc nous avons adapté les doses en fonction de ce que le laboratoire pouvait nous fournir. Et très rapidement, nous avons eu un effet spectaculaire chez elle aussi, avec une fonte de cette masse à l'intérieur de l'abdomen qui faisait 2,8 litres et qui, en 6 mois, a diminué de 70%. Et puis, donc, nous sommes maintenant un peu plus de 2 ans et 3 mois de traitement, a diminué de 80% sans geste chirurgical, sans rien. Et ce médicament, en plus de ça, s'est accompagné d'amélioration chez elle aussi d'une qualité de vie, avec une régression des différentes malformations. Alors, ce n'est pas des guérisons, bien sûr, mais une amélioration nette chez les deux patients, et le tout avec des effets secondaires très limités, probablement expliqués par les doses que nous avons utilisées de médicaments et le fait que nous soyons dans une thérapeutique extrêmement ciblée qui, a priori, ne touche que les zones « malades » entre guillemets du corps chez ces patients. Et donc, tout le monde a été rapidement emballé et convaincu de l'effet spectaculaire de ce médicament. Et nous avons rediscuté des différents patients que nous avions en cours de suivi à l'hôpital Necker au sein des différentes spécialités, puisque ce sont des patients qui sont suivis par des dermatologues, des généticiens, des chirurgiens, orthopédistes, chirurgiens viscéraux, chirurgiens maxillofaciaux, etc., des radiologues. Et donc nous avons décidé tous ensemble de revoir et de rediscuter de l'ensemble des cas que nous avions. Et en janvier 2017, nous avions 17 patients supplémentaires qui, entre guillemets, posaient problème, puisqu'ils avaient soit un pronostic vital engagé, donc c'est-à-dire qu'ils avaient des malformations qui engageaient leur survie à quelques mois, soit ils avaient une chirurgie, hein, le terme est un peu sévère, mais dite mutilante ou délabrante, qui était programmée. Donc, par ces termes-là, on entend amputation de bras, de jambes, résection de parties d'organes ou autres. Et donc, nous avons été autorisés de nouveau par les agences de régulation du médicament, de utiliser ce traitement à titre, encore une fois, compassionnel, c'est-à-dire qu'il n'existe pas ce médicament, vous allez en pharmacie, vous ne le trouvez pas, ni à l'hôpital, ni en pharmacie de ville, et c'est le laboratoire pharmaceutique qui le donne à titre gracieux et imposé par l'ANSM. C'est une chance d'avoir ce genre de protocole en France, et je vous en redirai un mot après. Donc nous avons traité ces 17 patients supplémentaires et de nouveau les effets ont été spectaculaires. Tous ces patients sont encore en vie. Les chirurgies qui étaient potentiellement programmées ont été annulées. Et encore une fois, nous n'avons eu que très très peu d'effets secondaires comparés aux autres médicaments que nous utilisons dans notre pratique quotidienne. Encore une fois, probablement puisque les doses étaient relativement faibles et sur des thérapeutiques extrêmement ciblées. Donc au total, nous avions 19 patients, 15 enfants, 4 adultes, en incluant donc les deux premiers patients, de 4 ans jusqu'à 50 ans. Et nous avons rapporté ça donc, dans la revue scientifique qui s'appelle Nature au mois de juin 2018. Et les patients, bien entendu, sont encore sous traitement, c'est-à-dire que ce médicament a un effet bloqueur de cette voie de signalisation qui travaille en excès, mais nous ne guérissons pas la maladie génétique, c'est-à-dire que le médicament est un frein, il bloque transitoirement. Si vous arrêtez le médicament, et ça on l'a bien vu dans nos modèles expérimentaux animaux, la maladie génétique sous-jacente va reprendre le dessus, va recommencer à entraîner des déformations et différentes manifestations cliniques. A priori, il n'y a pas de rebond à partir du moment où on arrête le médicament, c'est-à-dire qu'on ne voit pas la maladie flamber, comme on pouvait le voir dans certains cancers, mais au contraire, une reprise normale de l'activité. Donc, cet effet spectaculaire, et puis, à ma connaissance, c'est le premier effet observé aussi significatif dans une maladie génétique, avec des résultats aussi prometteurs, a été largement couvert, c'est vrai, dans la presse nationale et internationale. Et du coup, nous avons eu un rush de patients dans les semaines qui ont suivi la publication de ce papier. Alors, c'est une maladie théoriquement rare. Si vous allez sur Wikipédia, il y a marqué qu'il y a 50 cas dans le monde, ce qui est totalement faux. Nous avons eu plus de 3500 patients du monde entier qui nous ont contactés pour venir avoir un avis secondaire à l'hôpital Necker et éventuellement avoir accès au traitement. Alors, il faut bien que les gens comprennent, les auditeurs comprennent que ce médicament n'existe pas. Il est donné qu'à titre compassionnel, ce n'est pas un essai clinique. Il est donné que dans les formes les plus graves, et les formes les plus graves sont discutées de manière collégiale par les différents spécialistes de l'hôpital Necker. Ce médicament, bien entendu, est un véritable espoir pour tous ces patients. Et donc, il va y avoir, effectivement, nous sommes en discussion, un essai clinique à venir dans les mois de courant 2019-2020. Et pour qu'il puisse voir le jour, ce médicament, si cet effet est confirmé, bien sûr, pour tous les patients atteints de cette pathologie dans un futur assez proche. Donc c'est un message d'espoir, en fait, puisque vraiment, nous avons observé un grand nombre d'améliorations. Nous avons maintenant plus de 19 patients, plus d'une trentaine de patients actuellement en cours de traitement, avec des effets qui sont confirmés, et des enfants de plus en plus jeunes traités, puisque nous avons été confrontés à des formes extrêmement graves dès l'âge de 2 ans. Donc nous avons une majorité, bien sûr, d'enfants en cours de traitement, mais des effets qui se confirment, et toujours très peu d'effets secondaires, mais il faut être prudent. Nous sommes au début d'une nouvelle aventure, entre guillemets, et des patients qui vont très certainement avoir un traitement pendant très longtemps, voire même peut-être à vie, donc on ne sait pas encore quels sont les effets à long terme d'un blocage de ces différentes voies de signalisation, même à de très faibles doses. Alors bien entendu, on les suit sur le plan de la croissance, de la puberté, et de la fertilité, puisque ce sont nos préoccupations, bien entendu. Donc, un médicament qui fonctionne, tout ça n'a été possible, en fait, que parce qu'il y a eu une très forte interaction, et ça, c'est la chance, en fait, de travailler en France, mine de rien. J'ai eu la chance de beaucoup voyager, de passer du temps aux États-Unis en postdoc à Boston. Et nous avons un système qui est tout de même hors norme. On critique beaucoup tout ce qui se fait en France, mais il y a des choses qui fonctionnent, notamment dans les hôpitaux et les hôpitaux universitaires en particulier, où nous avons la possibilité d'avoir ce genre de recherche dite maintenant translationnelle, c'est-à-dire que vous avez la clinique et puis juste à côté vous avez les laboratoires de recherche qui sont dédiés à travailler sur ces différentes maladies. Et ben, la plupart du temps on échoue malheureusement à trouver des choses qui fonctionnent, mais parfois ça marche. Vous avez un exemple ici, mais il y a beaucoup d'autres exemples pour d'autres pathologies. Avec des résultats qui sont moins visibles à l'extérieur, mais qui marchent tout aussi bien à l'intérieur de l'organisme, j'ai envie de dire, et du coup sont peut-être un peu moins médiatisés, mais qui changent la vie d'un grand nombre de patients. Donc ça, c'est une force. La deuxième force, c'est d'avoir des autorités de santé qui sont réactives, qui sont très souvent critiquées, notamment les agences de régulation. Et en fait, l'agence de régulation du médicament a joué un rôle clé dans cette affaire, puisque si nous n'avions pas obtenu les autorisations et s'ils ne s'étaient pas sentis concernés, impliqués par ces différents aspects, nous n'aurions pas pu avoir accès aux médicaments. Pour vous donner une idée, nous avons un système de régulation des médicaments qui est presque unique en Europe. Quelques pays l'utilisent, mais ont le même système, mais peu d'autres. Et en général, sur les autres continents, les systèmes de régulation sont beaucoup plus compliqués. Par exemple, ce genre d'approche est quasiment impossible aux États-Unis, et donc les patients doivent payer intégralement l'accès à un traitement, même à titre compassionnel, puisqu'ils ne sont pas couverts par les assurances de santé, même les assurances privées. Et donc les patients doivent payer les consultations médicales, les hospitalisations, les différentes imageries, les examens biologiques, donc effectivement un coût astronomique. Donc voilà, des choses qui fonctionnent bien. La recherche en France pourrait être améliorée très certainement par plus de financement, bien entendu. C'est un des écueils en France. Donc il n'y a pas que des choses extrêmement positives, mais les pouvoirs publics n'ont pas probablement bien mesuré l'impact peut-être de la recherche fondamentale sur le futur d'une population. Avec justement, pourquoi pas, la découverte de nouveaux traitements qui permettent d'améliorer le devenir de patients, mais qui du coup permettent de les réinsérer. Si on regarde juste nos 19 premiers patients traités, on avait 2 adultes qui ne travaillaient plus, qui sont retournés au travail, et 8 enfants qui étaient déscolarisés, donc qui ont pu retourner à l'école et qui seront des jeunes adultes qui travailleront, donc un coût pour la société moindre, entre guillemets, un bénéfice économique, si on réfléchit en termes économiques, et puis également moins d'hospitalisation, moins de chirurgie, moins d'embolisation radiologique. Donc finalement, probablement un coût final qui sera bénéfique pour la société. Donc on a besoin de structures de financement en France qui ont été amputées au cours des 10 dernières années de manière incroyable, puisque, pour vous donner une idée, le budget global de la recherche en France est de l'ordre de 500 millions, toutes recherches confondues. Et lorsque j'étais à Boston, 500 millions, c'était le budget annuel des 2 hôpitaux en termes de recherche, donc le Brigham and Women Hospital et le Mass General. Donc 2 hôpitaux, 2 instituts de recherche et le budget de l'ensemble de la France. Mais il y a quand même d'autres choses qui fonctionnent bien, et nous avons la chance d'être en Europe et d'avoir des financements européens. Donc l'Europe sert à beaucoup de choses, et notamment au financement de la recherche, puisque l'ensemble des travaux que nous effectuons au sein de mon équipe de recherche est tenu grâce à des financements obtenus auprès de ce qu'on appelle l'ERC, donc qui est une commission européenne de recherche, qui délivre chaque année des budgets très conséquents qui permettent du coup de recruter du personnel de manière plus ou moins pérenne, de financer du consommable et puis du matériel, donc pour pouvoir faire toutes ces expérimentations qui coûtent extrêmement cher, et également créer des modèles murins. Pour vous donner une idée d'un budget, chaque année il me faut trouver environ 350 000 euros pour arriver à financer le personnel, technicien, ingénieur, etc., le consommable, les différentes plateformes que nous utilisons et qui, bien entendu, ont un coût. Donc, l'Europe finance, heureusement, c'est extrêmement difficile, extrêmement compétitif, mais les organismes français, INSERM, CNRS, sont à chaque fois classés dans les premiers récipiendaires de ces différences de versées. Donc, c'est une très bonne chose. La recherche française est puissante, pourrait se porter mieux, mais on a plein de gens brillants et donc il faut essayer d'arriver à les maintenir, à les garder ici. Donc là, actuellement, nous poursuivons ce genre de développement. Nous essayons de continuer une recherche translationnelle avec d'autres idées qui émergent, d'autres traitements potentiels. Et nous essayons de faire comme aux États-Unis, c'est-à-dire de solliciter les gens, les fondations, les particuliers, les industriels, pour essayer de faire des levées de fonds, pareil, pour financer notre activité au quotidien et poursuivre l'amélioration des soins et de la prise en charge de ces différentes pathologies génétiques qui étaient pour beaucoup en fait laissées pour compte, puisqu'elles ne représentaient qu'une petite minorité de patients, et bien entendu n'intéresse que très peu les industriels de la pharmacie, comparé à la cancérologie, au diabète, au VIH, à la pathologie cardiovasculaire. Bien entendu, nous sommes sur, entre guillemets, une niche, comme les appellent les industriels, mais qui représentent tout de même des patients et des gens qu'il faut traiter et accompagner tout au long de leur vie.